pour sauver leur âme. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, il y a quelque temps, on m'a offert un livre écrit par Jean-Louis Étienne. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Jean-Louis Étienne, c'est un, comment il faut appeler ça, un explorateur aventurier ou un aventurier explorateur qui a relié le nord du Canada au pôle nord en solitaire, à pied, enfin à ski. Et vous imaginez ce qu'il a pu subir par ces températures glaciales, n'est-ce pas, moins quelque chose. Et il a rédigé un ouvrage dans lequel il explique quelles ont été ses péripéties, ses difficultés, ses souffrances aussi. Et le titre de cet ouvrage, c'est « Persévérer ». Persévérer. Bon, je ne sais pas s'il faut dire « Amen », parce que ça, c'est un exploit gratuit, mais en tout cas, il s'agit pour nous, enfants de Dieu, eh bien, de prendre en considération cette exhortation qui nous est adressée dans la parole, comme nous l'avons lu il y a un instant, vous avez besoin de persévérance. Autrement dit, vous avez besoin de persévérer. N'est-ce pas? Vous savez, il y a toujours eu d'abord, et il y aura toujours, hélas, parmi ceux qui se prévalent d'être chrétiens, des défections, des abandons, des reniements de la foi. On parle d'apostasie. Peut-être avez-vous entendu ce mot, mais l'apostasie, c'est ça. C'est l'abandon de la foi. En tout cas, de la vraie foi. Il y a toujours eu des défections, même du temps de Jésus. Si vous lisez dans l'évangile de Jean, il est dit au chapitre 6, au verset 66, que de ce moment, parce que Jésus avait eu ce jour-là une prédication particulièrement incisive, de ce moment, plusieurs de ses disciples, non pas de ses opposants, mais de ceux qui jusque-là s'étaient targués d'être ses disciples, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Bien plus tard, du temps de l'apôtre Paul, à la fin de la deuxième épître à Timothée, vous savez, quand il fait ses adieux, parce qu'il termine sa course, il dira ceci avec certainement beaucoup de tristesse dans le cœur, « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Non seulement c'était un disciple, mais c'était même un serviteur de Dieu, un homme qui avait fait part pendant un bon moment partie de l'équipe missionnaire de l'apôtre Paul. Mais voyez-vous, je ne sais pas ce qui lui a pris. Cet homme-là a abandonné la foi, séduit par le monde et ses attraits, et il a abandonné non seulement Paul, mais aussi, on peut le penser, le Seigneur lui-même. C'est regrettable, ainsi, de s'éloigner. Et le texte que nous avons lu nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et il faut que ce soit là, la résolution qui soit la nôtre, la vôtre, la mienne. Je veux dire ce matin, moi, je ne suis pas et je ne serai pas, par la grâce de Dieu, de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Est-ce que cette parole, vous pouvez la faire vôtre? Moi, je ne serai pas de ceux qui se retirent. C'est important, car Jésus dira, dans l'évangile de Matthieu, on connaît ce passage, vous savez, à la fin de ce long discours, chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, où il parle des choses de la fin, des événements qui recourent à l'occasion de son retour, il dira, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On cite souvent ce texte, à juste titre d'ailleurs, de l'Ecclésiaste qui dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance. Vous avez reçu la grâce de Dieu. Vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous avez fait vos premiers pas dans la vie chrétienne, dans la découverte de cette grâce qui nous a été rappelée au travers de cette lecture tout à l'heure. mais pour saisir pleinement l'effet éternel de la grâce de Dieu, vous avez besoin de persévérance. Qu'est-ce que c'est que persévérer? On peut trouver le synonyme. Persévérer, c'est persister. C'est continuer. C'est poursuivre. C'est ne pas abandonner. C'est aller jusqu'au bout. Persévérer, c'est encore maintenir, garder et endurer. Voilà ce que c'est que persévérer. Et, chers amis, les chrétiens d'aujourd'hui, comme ceux d'autrefois, doivent être de cette trempe. Je lisais cet été les récits qui concernaient les persécutions qui se sont déroulées dans l'Empire romain dans l'année 64-65 après Jésus-Christ, de la part de ce terrible empereur Néron, c'est pas, et par centaines, par milliers, les chrétiens ont été livrés soit aux flammes, soit aux bêtes fauves, mais ces gens-là ont persévéré, mes amis. Alors nous ne subissons pas, et Dieu merci, les mêmes tourments, mais il s'agit quand même pour nous, face aux difficultés qui peuvent nous assaillir de toutes parts, aux tentations qui peuvent subvenir de toutes parts aussi, il s'agit pour nous de persévérer. Persévérer tout d'abord dans notre engagement envers le Seigneur. Un jour, je peux vous rappeler de cela, vous avez saisi la grâce, quelque chose s'est passé là dans votre esprit, dans votre cœur. Dieu vous a révélé que vous étiez un pécheur perdu, mais que Christ était mort pour vos péchés. Et le cœur est perdu de reconnaissance. Vous vous êtes repenti, en même temps, par la foi, vous avez saisi sa miséricorde, vous avez été pardonné, sauvé, alléluia, salut, c'est fait, béni soit Dieu. Mais il s'agit maintenant d'aller jusqu'au bout. Dans cette fameuse parabole, dite la parabole du semeur, Jésus décrit plusieurs situations, plusieurs genres de comportements, d'attitudes ou de réponses à la parole de Dieu. Et par exemple, dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, donc dans cette parabole, il dit ceci, quand le semeur, vous savez, est sorti pour semer sa semence, une partie de la semence, je lis pour vous, Luc 8, verset 6, une autre partie de la semence tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Alors Jésus va expliquer à ses apôtres, à ses disciples, le sens, la signification spirituelle de cette parabole. Il dit, voici ce que signifie cette parabole. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Amen. Ils la reçoivent avec joie. Mais dit le texte, ils n'ont point de racines. Vous voyez, c'est pas profond. Ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ils succombent au moment de la tentation. Ils renoncent, ils abandonnent, ils renient, ils laissent tomber, ils reculent, ils reviennent en arrière, ils abandonnent la partie. Je suis sidéré de voir parfois avec quelle facilité, avec quelle rapidité, hélas, avec quelle désinvolture, certains renient ainsi leur engagement et ne persévèrent pas. Pourtant, on les a instruits, pourtant on les a enseignés. Lorsqu'il s'est agi pour eux de prendre le baptême, on a bien précisé que c'était un engagement sérieux, solennel, parce que un engagement qui concernait notre relation avec Dieu. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et on a précisé qu'il s'agissait d'un engagement définitif, permanent, que rien ne devait jamais venir rompre. Et pourtant, parfois, trop souvent, hélas, eh bien, certains reviennent en arrière. Vous savez, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Heureusement, il y a une bonne nouvelle. C'est que quand on s'est éloigné, on peut toujours revenir. Hier soir, à la réunion de jeunesse, il était question de la parabole du fils prodigue. Il s'est éloigné de la maison du père. C'était un fils de la maison. Vous voyez, c'était pas un paria, c'était pas un enfant illégitime, non, un fils de la maison, un fils de bonne famille, comme on dit. Et une tocade l'a pris, et pendant un temps, eh bien, il a perdu la tête, il est parti, et puis on connaît son aventure ou sa mésaventure, mais il est revenu. Et il fut accueilli à nouveau. Alléluia! Et béni soit Dieu parce que le Seigneur fait grâce. Mais enfin, il vaut mieux éviter quand même, n'est-ce pas, d'en arriver là, même s'il est possible toujours de revenir. Alors on parle de reniements, oui, il y a des reniements verbaux. Il y a ceux qui abandonnent, c'est visible, on ne compte plus parmi nous, etc. Attention, parce qu'il peut y avoir aussi des reniements intérieurs, non apparents. C'est-à-dire les gens qui font toujours mine d'être chrétiens, oh, ils seront là au culte, ils viendront peut-être leur Bible sous le bras et tout le reste, ils verseront le rebelle, le moment de l'offrande. Mais intérieurement, ils sont déjà déchus de la grâce. Déchus de la grâce. Parce qu'ils n'ont pas persévéré intérieurement. Alors, Jésus nous dit que certains abandonnent la partie, justement, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Vous savez, la tentation ou l'épreuve, je crois que dans l'original grec, c'est le même mot, la tentation surviendra toujours. Vous le savez ça? Mais même Jésus a été tenté. Alors si lui a été tenté, comme nous en toute chose, nous de l'Écriture, ne pourra pas passer au travers. La tentation viendra. L'épreuve surviendra dans ta vie de croyant. Il y a des moments où tu connaîtras la difficulté, même si tu es parti sur le chapeau de roue. Ouais, tu as vécu une expérience fracassante, bouleversante, la tentation viendra. L'heure où ta foi sera éprouvée, testée, vérifiée par le feu de l'épreuve, ça viendra. Alors il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer pour pouvoir persévérer. Et que Dieu nous fasse grâce pour que vous et moi, nous soyons de ceux qui persévèrent. Jusqu'au bout. Amen. Vous avez envie de persévérer ou non? Vous regardez avec des yeux comme ça. Vous avez envie de persévérer? Moi j'ai envie d'entrer au ciel un jour. Misère, qu'est-ce que je fais ici-bas? Si ce n'est, n'est-ce pas, d'avoir comme perspective, l'entrée dans le royaume des cieux. Je veux entendre le Seigneur me recevoir, m'accueillir en disant, eh bien, c'est bien, bon fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, béni soit Dieu. C'est là l'objectif que nous devons poursuivre. Vous savez, on le sait, mais des fois on oublie. Tout passera. Ce monde matériel, n'est-ce pas, se désintégrera. Apôtre Pierre nous en parle dans la deuxième épître. Tout ce qui fait parfois, eh bien, l'essentiel de notre vie, tout partira non pas en poussière, mais sera réduit à néant, n'existera plus. Les choses visibles, elles sont passagères. Mon frère, ma soeur, mets-toi ça dans le cœur. Et les invisibles, elles sont éternelles, c'est pourquoi ça vaut la peine de persévérer, d'aller jusqu'au bout. Persévérer, il le faut aussi dans la foi. Persévérer dans la foi. Dans ce même texte de l'Épître aux Hébreux, nous avons lu tout à l'heure au chapitre 6, cette fois, et au verset 13, il est question de celui qui est par excellence le père des croyants, l'exemple, le modèle idéal d'homme de foi. Bien sûr, il s'agit d'Abraham. Et il dit ceci, lorsque Dieu, Hébreux 6, verset 13, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Alléluia. Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Persévérer dans la foi, continuer à faire confiance à Dieu, s'attendre à lui en vue de l'accomplissement de ses promesses. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, Dieu apparaît à Abraham. Et lui dit, Abraham, je vais multiplier ta postérité, ta descendance à l'infini. Et puis il le prend en quelque sorte par la main, il l'amène dehors, et ça doit être la nuit, il lui dit, regarde les étoiles. Et bien, de la même manière que les étoiles sont innombrables, ta postérité sera innombrable. Et le texte dit, Abraham crut. Alléluia. Abraham crut, qu'est-ce qu'il a cru? Il a cru l'incroyable. Eh oui, parce qu'il était déjà pas un tout jeune homme, son épouse était stérile, Et Dieu avait dit, ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Mais il crut. Il crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Dieu lui avait donné pour nom Abraham, ce qui ici fit père d'une multitude. C'est assez ironique. Pour un homme qui n'a pas d'enfant, dont la femme est stérile, Dieu l'appelle le père de la multitude. Eh bien, Abraham a relevé une fille de la foi, il a cru. Et il a cru pas 5 minutes, pas 6 mois. Et des années, jusqu'à ce qu'enfin, gloire à Dieu, la divine promesse s'accomplisse. Ayant persévéré, il obtint l'effet de la promesse. Et c'est ainsi qu'Isaac est né. Vous savez, je voudrais dire ceci aussi à propos de la foi. La foi, c'est pas un moyen commode d'éviter les coups durs. Des fois, on le croit. Et des fois, même peut-être les prédicateurs, hélas, j'en fais partie, se laissent aller à quelque peu amener leur auditoire à penser que si l'on se confie dans le Seigneur, non problème, tout ira bien. Oui, tout ira bien pour ceux qui aiment Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on passera au travers des coups durs. Dans l'Épître aux Hébreux, il y a ce fameux chapitre 11 qui est le chapitre de la foi, vous savez. Et voici ce que l'auteur, inspiré par le Saint-Esprit, déclare au verset 32. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. On voudrait connaître ça, non? Guérir de leurs maladies, échappèrent aux tranchants de l'épée, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, etc. Ils fermèrent la gueule du lion, c'était la puissance du feu. Mais le texte poursuit. Et il dit ceci, d'autres, et ces autres avaient aussi la foi, d'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage. On voudrait bien faire partie de la première liste, mais il y a aussi l'autre. Et les uns et les autres ont su manifester la foi, soyons de cela. Persévérer, il le faut également dans la prière. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, le Seigneur Jésus dira ceci, c'est qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. D'autres traductions disent ne point se lasser, ne point se décourager. D'ailleurs, la prière, il faut qu'elle soit l'expression de la foi. Ne point se relâcher, ne point se lasser, ne point se décourager, toujours prier. Eh bien, c'est se persévérer, ça. Alors, il donne cette parabole dite du juge inique, vous savez. Un juge qui était un méchant bonhomme, et il y avait là une pauvre veuve qui venait sans cesse lui demander qu'il lui fasse justice de sa partie adverse. Et pendant longtemps, il refusa. Mais comme elle revenait sans cesse à la charge, n'en pouvant plus, afin qu'elle ne vienne pas me rompre la tête, me casser les oreilles, je lui ferai justice. La parabole ne signifie pas que notre Père céleste est semblable au juge unique. Mais si ce juge inique, mauvais, méchant, injuste, n'a pas pu résister à la prière insistante de cette veuve, à combien plus forte raison notre Père, qui est un bon Père, alléluia, eh bien répondra-t-il à la prière de de ses enfants. Et vous savez, il y a des prières qui peuvent se prolonger. Je lisais ou je relisais l'histoire du réveil de Pentecôte en France. Nous sommes les héritiers d'une longue tradition. Il y a des gens qui sont venus avant nous, vous le savez ça? Il y a des gens qui ont prié alors que nous n'étions même pas venus au monde. Au Havre, en 1909, une Suissesse s'est installée, Mademoiselle Biolay. Dans cette ville portuaire, elle a ouvert un hôtel-restaurant, un bar sans alcool. Ça s'appelait le Ruban Bleu. Dans la ville du Havre, il y avait, du fait de, voyez, de cette population, les marins, tout ça, de dockers, un grand fléau, c'était l'alcoolisme. Et cette femme s'est installée là, et avec courage, elle a annoncé l'évangile à ses hommes, elle leur a parlé de l'amour de Dieu, et aussi, et surtout, elle a prié. Elle a prié des années, 1909. Elle a prié des dizaines d'années pour que le réveil, et particulièrement le réveil de Pentecôte, vienne dans ce pays de France. Et ce n'est qu'en 1930, ou quelque chose comme ça, que l'évangéliste Douglas Scott est venu d'Angleterre pour apporter le message du plein évangile. Le temps de Dieu était venu. Mais cette femme, elle a prié des dizaines d'années pour que l'œuvre de Dieu puisse surgir. Et c'est ainsi, mes amis, que l'évangile s'est répandu, d'abord au Havre, puis ensuite c'est venu vers Marseille, voyez, et puis de proche en proche, de lieu en lieu, Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, etc., etc., etc. Et nous en sommes là aujourd'hui. Parce que quelqu'un à la base a prié pendant des années et des dizaines d'années. Persévérer dans la prière, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Soyons de cela, mes amis. Que la prière nous attire, que ce soit quelque chose qui nous intéresse, qui nous motive. C'est vrai qu'il y a d'autres choses dans l'église, il y a de bons moments, la communion fraternelle, on partage un repas, on se congratule, on se reçoit peut-être les gens chez les autres, c'est fraternel, c'est bienfaisant, c'est bon, c'est agréable, et il faut le faire. Mais il faudrait aussi que les chrétiens soient motivés plus qu'ils ne le sont par la prière. Et que nous soyons un peuple qui persévère dans la prière. Vous avez dans vos familles des membres de votre famille convertis, ils sont réfractaires. Chaque fois que vous ouvrez la bouche pour prononcer la moitié du nom de Jésus, ils vous le mettent en place avec virulence. Priez. Taisez-vous, vous en avez assez dit. Et priez. Tout ce qu'il y avait à dire au niveau du témoignage, vous leur avez relâché. Maintenant, priez. Et par la prière, livrez-les à l'action du Saint-Esprit. Ça peut durer des années, ça peut durer toute une vie. Mais le Seigneur saura agir en réponse à vos prières. Persévérez dans la prière. Persévérez, eh bien, il le faut aussi dans le service. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Amen. J'aime pas trop, vous savez, quand on parle des pasteurs, les serviteurs de Dieu. Comme si les croyants, les hommes, n'étaient pas des serviteurs de Dieu. Mais, chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes tous au service du Seigneur. Il n'y a pas ceux qui servent et ceux qui sont servis. Mais nous nous servons de la part du Seigneur mutuellement les uns les autres. Il faut voir les choses comme ça. Et le Seigneur nous parle de persévérance. Dans la première aux Corinthiens, laissez-moi vous lire un texte qui m'a parlé personnellement cette semaine. Voilà, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, l'apôtre Paul dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, ça concerne aussi les sœurs, hein. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Même si le mot, même si le verbe n'est pas employé, c'est quand même de persévérance dont il y est question là, voyez. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et oui, persévérez dans le service malgré les déceptions, malgré les insuccès, malgré les échecs apparents ou réels. malgré le manque de considération, d'appréciation, malgré les difficultés de la tâche, malgré l'aridité du terrain. Et Dieu sait que notre terre de France est une terre aride vis-à-vis de l'Évangile. Mais il nous faut cependant persévérer dans notre service. En matière de persévérance, il y a un exemple magistral dans la parole de Dieu, persévérance par rapport au service, c'est l'exemple de Jérémie. 40 ans de ministère. Il a vécu cet homme dans une période sombre de l'histoire d'Israël. Le peuple de Dieu s'était détourné de Dieu. Ils étaient adonnés à l'idolâtrie, à la magie, à la débauche, à toutes sortes de comportements aberrants. Et fidèlement, il a prêché le message. Il a persévéré d'une manière remarquable. Malgré le peu de succès qu'il a eu,
On aurait pu dire, Jérémie, tout ce que tu as raconté, tes jérémiades, là, ça n'a servi à rien.
Mais ce n'est pas vrai. Parce que des années plus tard, il y a un homme qui s'appelait Daniel. Et qui, lisant la prophétie de Jérémie, s'est aperçu que, eh bien, le terme des 70 années de captivité qui avait été fixé pour le peuple de Dieu à Babylone approchait de son terme. Et Daniel a prié, a intercédé. Et suite à l'intercession de Daniel, intercession qui s'appuyait sur les prophéties de Jérémie, eh bien, les choses se sont mises en marche. Et le peuple de Dieu a pu revenir au pays de ses ancêtres. Vous voyez, ce pauvre Jérémie, il est mort sans avoir vu l'accomplissement des œuvres divines qu'il espérait tant pourtant. Mais il a été fidèle, mais il a persévéré, mais il a continué, on l'a méprisé, on l'a rejeté, on l'a persécuté, on l'a menacé de mort, on l'a jeté dans un trou, on l'a mis en prison, mais rien n'a fait, il a fait, il a persévéré dans son service. Je voudrais être de cette trempe. Je vous assure, je vous avoue que parfois ça m'arrive. Et j'espère que vous ne jetterez pas la pierre de dire, mais à quoi bon tout ça? À quoi bon cet effort? Seigneur, si peu d'âmes qui se convertissent, si peu de personnes qui viennent au Seigneur, et puis dans l'église parfois, Seigneur, en dépit des exhortations, si peu d'allant, de motivation, non, il n'y a qu'à laisser tomber tout. Non, il faut persévérer. Il faut persévérer dans le service. Alors, je terminerai, et c'est moi encore quelques minutes. Comment persévérer? Comment y parvenir? D'abord, il faut réaliser que notre propre force de caractère ne suffit pas. Vous savez, il y a des gens, comme on dit chez moi, ils ont du niaque, hein? Ils s'accrochent, ils ont du caractère, ils ont de l'énergie. Waouh, c'est formidable, mais ça ne suffit pas, ça. Parce que trop compter sur soi, c'est l'échec garanti. Eh oui. Hein? C'est l'échec garanti. Pierre en a fait la triste expérience. Il comptait beaucoup sur ses propres capacités. Regardez par ici, s'il vous plaît. Merci. Il comptait beaucoup sur ses propres capacités et on sait comment ça a fini. Il faut chercher le secours auprès du Seigneur. Il y a un verset quelque part, j'ai oublié la référence, qui dit « La force est à Dieu. Amen. » Alors, la force que moi, j'ai pas, lui, il a. Et ce qu'il y a de bien, c'est que sa force, il veut me la communiquer pour que je puisse persévérer. Dans le livre du prophète Ésaïe, je pense que vous connaissez ce texte remarquable, mais laissez-moi vous le lire encore une fois, au chapitre 40 et au verset 29, il est écrit la chose suivante, voilà. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Alléluia. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Il marche et ne se fatigue point. Autrement dit, ceux qui se confient en l'Éternel, eh bien, ils persévèrent.
ils reçoivent de lui la capacité de persévérer, chercher le secours auprès du Seigneur. Le Seigneur ne nous en voudra pas si on vient lui dire, Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, je suis au bout du rouleau. Seigneur, j'ai envie de tout lâcher, de tout abandonner, s'il te plaît, secours-moi. Et il le fera, et il nous communiquera sa force. Et puis, laissez-moi vous dire aussi, c'est que le Seigneur permet l'épreuve et la difficulté justement pour accroître notre capacité de résister, d'endurer, de persévérer. C'est pas agréable à entendre, mais c'est vrai. Dieu permet l'épreuve pour accroître notre capacité de résister, d'endurer et de persévérer. C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous dira cette parole dans le chapitre 1er de son épître. Il dit ceci: « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » La patience dans la pensée biblique, c'est pas la résignation. Vous voyez, c'est pas, ben c'est comme ça, puis c'est pas autrement, faut faire avec, non. Dans l'idée de Dieu, la patience, c'est la capacité d'endurer, de résister, de persévérer. Vous savez, les sportifs, comment peuvent-ils accroître leur masse musculaire? Hier soir, avec quelques frères, on a regardé le match, hein, France-Italie, là. Hein. Oh, misère, ses gros bras, hein. Ses cuisses, on dirait des jambons, hein. Tellement ils sont costauds, tellement ils sont solides. Des montagnes de muscles, vous croyez que c'est venu comme ça, là? Bien sûr, il y a une morphologie sur le plan naturel, mais quelle que soit la morphologie, il faut qu'un entraînement intensif leur permette d'en arriver là. Alors, comment un sportif s'y prend-il pour accroître sa capacité musculaire? Ben voilà, il impose à ses muscles une résistance, par exemple un poids à soulever. Et pour vaincre cette résistance, il y a un effort à fournir. Et cet effort fréquemment répété, pour vaincre la résistance du poids, fortifie les muscles et les développe. Et ça, faut pas le faire une fois, de temps en temps, tous les 15 jours, mais il faut le faire tous les jours, pendant des années. Et c'est comme ça que ces gaillards, eh bien, ils deviennent musculeux. Eh bien, nous, c'est pareil. Si on veut avoir du muscle dans notre vie spirituelle, Dieu permet que nous soyons confrontés à l'épreuve. Vous voyez, une résistance. Et quand on se frotte, quand on se mesure à la résistance, par la grâce de Dieu, pour vaincre cette résistance, on a un effort spirituel à fournir avec son aide. Et c'est ainsi que notre capacité de persévérer s'accroît. Alléluia. Amen. Vous savez, je n'avais pas pensé à ça, mais j'y pense tout à coup. Quand on regarde la parole de Dieu, c'est promis, c'est la fin. Le roi David et le roi Salomon. David, sa vie, si vous l'avez lu, est une succession à peu près incessante de guerres, de combats, de difficultés à affronter. Toujours, jusqu'au bout, jusqu'à pratiquement sur son lit de mort. Mais cet homme, bien sûr, il y a eu des moments de défaillance, mais quand même, il a su résister victorieusement. Et il a persévéré dans sa foi. Moi, je crois que dans lui, il est dans le royaume de Dieu. Alléluia. Quand on regarde Salomon, ça veut dire paix. Hein? Shomo en hébreu, la paix, shalom, ça, c'est la même racine. Salomon, il a été tranquille comme tout, pas de soucis. On lui a porté le royaume sur un plateau, vous voyez. Il n'a pas eu à se battre, il n'a pas eu à se bagarrer, non. Mais cette facilité a été sa ruine et sa perte. Et l'on sait comment il a fini tristement. Alors des deux, on lui ressemble à David, qui a eu toujours à se bagarrer, mais qui a persévéré, qui a seulement été tranquille, non problème, mais qui a tellement mal fini. Que Dieu nous aide, vous et moi, à persévérer. Amen. Hein? Et qu'un jour, on se retrouve tous là où on se dise, frère, sœur, ça y est, on y est, alléluia, c'est fini, le combat est terminé. Par sa grâce, nous avons pu persévérer et nous entrons maintenant dans ce pays magnifique, ce pays merveilleux où Jésus nous a précédés et où nous a préparé une place. Amen. On se recueille quelques